I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Imaginez, vous êtes chez vous, sur votre canapé, vous faites partie des 5 millions de fumeurs occasionnels de cannabis, même si c'est illégal, vous avez envie d'un joint d'herbe. Vous regardez sur la table basse votre smartphone, là, juste devant vous, ce téléphone est devenu un véritable coffee shop. Vente directe, livraison par VTC, marketing, on vous raconte aujourd'hui comment le deal de drogue s'est ubérisé. Pour cet épisode de Code Source, nous sommes dans l'un des bureaux du Parisien, dans le Val-de-Marne, à Créteil, avec le reporter Maxime François et Denis Courtine, spécialiste police-justice, qui est en poste depuis 10 ans dans le département. Ensemble, ils ont signé le 18 avril une longue enquête dans le Parisien sur l'ubérisation de la vente de drogue. Denis Courtine, en fait, vous travaillez sur un point de deal bien particulier de Villejuif depuis janvier 2017. Comment tout a commencé ?
Alors au tout départ, j'ai discuté avec un policier qui me parlait du trafic de stup dans le département et donc il m'a dit, si tu veux découvrir le gros point de deal, il faut aller au four de Villejuif. Alors moi, je ne connaissais pas du tout le four de Villejuif. En fait, c'est un des plus gros points de deal du département et sans doute du sud francilien. C'est situé juste à côté d'une station de métro, donc c'est super bien desservi. Du coup, les clients s'y rendent facilement. C'est pas dans une cité crado, donc les clients sont pas, ont pas peur d'y aller. C'est à côté du stade Gabriel Thibault. C'est devant des immeubles d'habitation. Il y a un petit terrain de foot où il y a donc les gamins du quartier qui viennent jouer. Donc, c'est pas du tout un endroit mal famé, on pourrait dire, on va dans une cave, dans l'ombre. Non, non, c'est vraiment au cœur d'un quartier. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir comment ça se passe sur place. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller acheter tout simplement un peu de cannabis.
Alors là, comment ça se passe sur place ?
C'était assez simple, en fait. On va à la station de métro qui est juste à côté. On voit tout de suite les choufs, en fait, les guetteurs qui surveillent les allées et venues devant le point de deal, dans la petite rue où il y a le point de deal. Et il y a le service de sécurité qui est juste devant.
C'est-à-dire le service de sécurité ?
Alors moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est qu'au moment d'aller acheter, il y avait donc 3 gars qui se trouvaient vraiment juste devant. Et il y avait notamment un qui était avec une pelle pour dissuader ceux qui avaient des velléités de les mauvais clients ou éventuellement la concurrence. Le jour où j'y étais allé, moi, c'était pas le cas. Mais les jours d'affluence, on pouvait avoir, dit-on, près de 200 clients par jour.
Mais pour les dealers, tout va se compliquer à partir du mois d'octobre.
Ouais, à partir du mois d'octobre, ça va se compliquer. En fait, il y a eu 2 événements qui ont tout changé. Il y a eu l'installation, donc par le maire de Villejuif, d'un mat vidéosurveillance.
Incivilité, violence ou encore trafic de stupéfiants, la vidéosurveillance sera utilisée dans de nombreuses situations. Avec une insécurité montante, la mairie en a fait sa priorité.
Donc le mat vidéosurveillance se trouvait vraiment juste devant le point de deal. Et ça évidemment, ça ennuyait les dealers. Et donc, ils ont décidé, comme ça arrive de plus en plus souvent, de scier le mat vidéosurveillance.
Comment ils ont fait ?
Bah, ils ont pris une meuleuse, ils sont allés la nuit avec la meuleuse et commencé à scier le mat, quoi. Un mois après, donc deuxième mât qui est mis en place par la municipalité, un mât qui a été renforcé, et là, rebelote, avec une meuleuse, en pleine nuit, les gars arrivent et ils découpent le mât. Ils ont remis ça, donc finalement, en mars, avec le troisième mât donc, qui a été installé, et cette fois, il a été renforcé avec du béton. Il est énorme, ce mât, donc là, il faut s'accrocher pour réussir à le découper à la meuleuse. Et là, à l'heure actuelle, ce mât tient la route. les policiers, l'État, la mairie ont dit « là, on va mettre le paquet pour pourrir la vie des trafiquants ». Et c'est là que les choses ont complètement changé. Il y a d'abord eu des opérations de police. Ils ont saisi près de 90 kilos de cannabis. Alors, c'était dans les appartements, dans des box, un peu partout. Il y a eu aussi les quarts de CRS. C'est-à-dire, on prend un quart de CRS et pendant 4 jours, il y a un quart de CRS qui se gare, qui est stationné devant le point de deal. Et alors là, forcément, les clients ne viennent plus. Et ça met un gros coup aux trafiquants, forcément. Et du coup, les dealers ont changé leur façon de travailler aussi sur le point de vente, puisqu'ils travaillent maintenant dans d'autres coins, dans des parkings souterrains, là où voilà, ils trimballent un peu leur clientèle à des endroits inhabituels. Et donc, ils vont aussi s'adapter sur le point de vente. Et ils vont développer leur activité sur Internet.
Maxime François, vous avez beaucoup travaillé sur cet aspect marketing, vente à distance par Internet de la part des dealers. Est-ce qu'on peut dire que les dealers se sont ubérisés ?
Complètement, les dealers se sont ubérisés. Ça veut dire une communication agressive sur les réseaux sociaux via l'envoi de photos, de montages photos, de vidéos, de musique. Ça passe par un réseau social notamment, qui s'appelle Snapchat, qui est un réseau social dont les jeunes sont très friands, qui a la particularité de proposer des montages vidéo, presque tout fait, et qui s'efface. Donc, qui a potentiellement cet avantage de la discrétion pour des dealers et des consommateurs qui voient leur message envoyé des dealers être effacé dans la foulée, dans les 24 heures.
En même temps, ce n'est pas franchement nouveau, les ventes à distance, les SMS.
Oui, il y a depuis plusieurs années maintenant, il y a les call centers, donc les centres d'appel qui se développent un peu partout. La police en démantèle régulièrement. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est tout ce développement marketing, tout ce boulot qui est fait sur le packaging, sur le marketing. Ça, en revanche, on n'avait pas ça auparavant à ce niveau-là.
Vous êtes abonné, Maxime François, vous êtes abonné à ce compte Snapchat ?
Oui, je suis abonné à ce compte.
Pour des raisons professionnelles, bien sûr.
Pour des raisons professionnelles. Donc, je reçois quotidiennement des messages. Là-dessus, si je vais consulter ce compte, j'ai tous les jours de nouveaux montages, de nouveaux messages, de nouvelles qualités. Les dealers informent la clientèle et le secrétaire embauché par le gérant du réseau tient au courant les clients de la bonne arrivée de leur livraison et des quantités disponibles et qui peuvent être achetées.
Est-ce qu'on peut regarder ensemble ce compte ?
On peut le regarder ensemble. Alors là, j'ouvre mon compte Snapchat, j'ouvre l'histoire du jour qu'on appelle une story de ce compte.
C'est un peu comme une publication Facebook, quoi.
C'est un peu comme une publication Facebook avec des photos, c'est animé. Et voilà, là, on a la hot pink. Ça doit être une variété d'herbe. Là, c'est conditionné sous vide dans des sachets de 3,5 grammes. Ça coûte 60 euros. Donc, on a le prix, un petit montage, une tête d'herbe, de cannabis.
Il y a une flèche qui bouge, là, qui indique...
Il y a une flèche qui bouge pour indiquer à la fois la quantité et le prix. Donc, c'est animé.
Là, ils indiquent les horaires de livraison.
Entre 18h et 4h du matin.
C'est un peu plus cher aux hommes, c'est de la qualité.
C'est du travail de professionnel. Là, une autre image vient de défiler. On voit des boîtes sous vide, comme des boîtes de pâté fermées sous vide. Sauf qu'à l'intérieur, c'est du hashish ou du cannabis. Sur le pourtour de la boîte, on a un petit emballage... Un bel emballage avec le nom du produit, le taux de concentration en THC, qui est le principe du cannabis qui provoque l'effet de la drogue. Là, on voit 24%, donc c'est énorme, c'est des taux conséquents, et on voit que sur la petite boîte, il y a marqué 3,5 grammes, avec un QR code pour pouvoir avoir accès au compte Snapchat et assurer une communication efficace et permanente.
On peut continuer à regarder, à défiler les messages.
Regarder. Voilà, bientôt dispo, cette qualité de bœuf, bientôt dispo, donc de la Péri. Voilà.
On voit plein d'herbes, plein de têtes de cannabis.
Plein de têtes de cannabis et d'herbes. Et puis ça continue comme ça. C'est du travail de pro. On a affaire à un vrai réseau, vraiment bien structuré, bien organisé, puisqu'ils font eux-mêmes leur boîte de conserve, qu'ils mettent sous vide. Et puis il y a aussi tout un système de cadeaux. Donc quand la livraison s'est bien déroulée, On peut avoir des feuilles à rouler, un grinder pour effriter son herbe, des joints pré-roulés, des space cakes, des gâteaux de cannabis qui sont vendus, qui sont vraiment très créatifs.
Et il y a même un rappeur qui a fait leur publicité.
Oui, le rappeur Mr. You a joué les égéries, donc c'était au mois de février, fin février. Donc, dans une vidéo diffusée sur Snapchat, sur le compte des dealers, il fume ce produit qui est présenté et explique que c'est de la très bonne qualité, quoi. C'est du très bon.
Voilà, famille, bon, pour tous ceux qui me demandent est-ce que Caliweed c'est du lourd, regardez-moi ça, la famille. Déjà, celle-là, un peu de Bildia, Rouya. Ça, c'est la frappe.
Évidemment, ça n'a pas plu du tout aux policiers. Il a été perquisitionné dans la foulée. Et donc, il doit être jugé dans quelques mois.
Ah, c'est que du lourd, Julia. Dites-moi, c'est quoi les boys? La Bildia pour commencer.
Comment font les clients pour commander?
Ils ajoutent le compte sur leur réseau. Et puis après, une sorte de messagerie est activée entre les deux utilisateurs. Et via cette messagerie, les clients peuvent envoyer leur demande, c'est-à-dire, voilà, je voudrais 4 boîtes d'herbe de cannabis, voici mon adresse, ou une adresse de livraison, et tous les échanges se font en revanche en cash.
Ensuite, comment se déroulent très concrètement les livraisons? Comment arrive la drogue après chez les clients?
Le mode de livraison le plus commun, c'est la voiture type VTC, type berline. Ça permet de pouvoir circuler dans Paris, de pouvoir circuler en banlieue de manière beaucoup plus discrète et de pouvoir surtout justifier de ses déplacements s'il y a un éventuel pépin. Ils peuvent prétendre en tout cas être en train de faire une course, donc c'est plus discret.
Est-ce qu'en discutant avec les policiers ou des proches des dealers, vous avez pu entendre des histoires surprenantes de deals de cette façon, à la mode Uber?
Oui, je pense immédiatement à celle de ce jeune homme de 23 ans, embauché pour 400 euros par jour via le réseau social Snapchat. Donc, il a été dans les Yvelines pour une livraison un peu particulière, c'était pour un anniversaire. Donc, dans son coffre, au moment où les policiers l'ont attrapé, de la cocaïne, du shit, mais aussi un gâteau anniversaire au cannabis, bien emballé, avec un beau nappage, une jolie boîte, du ruban autour pour bien présenter la chose, comme on peut les acheter dans une vraie boulangerie pour un anniversaire.
On a vu le marketing sur Snapchat, les dealers vont jusqu'à organiser des jeux, des tombolas, c'est vrai?
C'est vrai, des tombolas, alors c'est pas les seuls à le faire. C'est des choses qui ont été vues aussi à Grenoble, à Marseille. Donc des tickets sont livrés, les clients participent à la tombola, achètent un ticket. Et là, récemment, il y a quelques jours, il y a eu un gagnant, donc même plusieurs gagnants. Au moins 3 lots ont été distribués. Donc c'est des grosses quantités de hashish, de cannabis, des joints pré-roulés, des gâteaux. Enfin, toute une sorte de goodies sont envoyés également aux gagnants de ces tombolas.
Pourquoi ils font ça?
Pour fidéliser la clientèle et pour montrer qu'ils sont de bons commerçants, qui gâtent leurs clients les plus fidèles.
On sait combien il y a de clients?
On sait qu'il y avait à peu près 200 clients par jour quotidiennement sur le point de vente. On imagine que c'est à peu près autant ou plus. C'est compliqué d'avoir une estimation. Les dernières estimations, c'était au moins 7000 euros de bénéfices par jour.
Au niveau de l'organisation du travail et du personnel, on va dire, comment les dealers se sont adaptés?
Il y a eu beaucoup de turnover, comme dans n'importe quelle entreprise en difficulté. C'est-à-dire qu'on vire les dealers un peu trop connus des services de police, on en embauche d'autres villes, un peu plus âgés, qui ont un petit peu plus d'expérience. On élargit les horaires. Enfin bref, on trouve une organisation de travail beaucoup plus flexible et plus rapide, neuve en tout cas.
Donc ils sont adaptés comme des vrais patrons?
Ils se sont adaptés comme des vrais patrons dans une situation où il faut restructurer l'organisation, organiser une sorte de plan social et relancer l'activité.
Denis Courtine, le fait que le deal soit de plus en plus sur Internet, sur Snapchat, on vient de le voir, qu'est-ce que ça change pour les policiers du Val-de-Marne?
Il y a différents services de police qui vont avoir leur spécificité dans le travail. Il y a les policiers de sécurité publique qui travaillent au quotidien pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de nuisances possible pour les riverains, donc à démanteler les réseaux de vente. Et il y a des services plus spécialisés de sécurité publique ou de PJ qui, eux, vont travailler sur le long terme et qui vont essayer de démanteler les centres d'appel, les fameux call centers.
Ça veut dire que la police aussi, elle, doit muscler, on va dire, son travail sur Internet?
La police est obligée de travailler sur Internet aujourd'hui. Il y a un nombre d'affaires qui sont résolues grâce justement à Internet, qui sont hallucinantes. Justement, Snapchat, c'est aussi une base d'information qui est exceptionnelle pour la police. On nous décrit le réseau sur Snapchat, quoi. Donc forcément, ça prend aujourd'hui une place prépondérante dans le travail de la police au niveau judiciaire pour le trafic de stupéfiants.
Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans cette affaire, Maxime François, Denis Courtine ?
De constater la gestion entrepreneurial de ces dealers, quoi. Ils gèrent leur point de vente comme un patron d'entreprise gère son entreprise. C'est campagne de communication, fidélisation de la clientèle, enfin, nos cités ont du talent, quoi.
Moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait presque un peu du gâchis, parce qu'on sentait que les gars mettent une telle implication, une telle intelligence parfois, c'est bête ce que je vais dire, c'est un métier à part entière, il y a un savoir-faire, il y a des horaires de travail, il y a de la disponibilité, il y a de l'investissement dans le boulot, et donc forcément on se dit que tout ce savoir-faire aurait pu être mis à profit dans un commerce licite en fait. Voilà. On ne voit pas d'énormes différences, alors évidemment c'est un commerce illicite, c'est du trafic de drogue, on lutte contre ça, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ces compétences-là, elles auraient pu être mises à profit dans un commerce banal, un commerce licite. C'est un peu du gâchis de l'exploiter comme ça.
Merci à Denis Courtine et Maxime François. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production et montage, Jeanne Bouézec. Réalisation et mixage, Jules Croix. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée, Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Pour suivre l'actualité en direct, rendez-vous sur leparisien.fr.
Hey, Prime members, you can listen to this show ad-free on Amazon Music. Download the Amazon Music app today.